Aujourd'hui, donc, nous allons revenir sur la crucifixion de Jésus-Christ et nous focaliser sur les 7 paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Nous avons vu la dernière fois quand Jésus était amené pour être crucifié. Rappelez-vous qu'il était 9h du matin. Marc 15, 25, c'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. Et nous allons regarder ce matin les circonstances entourant sa crucifixion. Nous avons vu la première parole du Seigneur il y a un mois. Quelqu'un se souvient? Sous la croix, sa première parole sur laquelle était axée la prédication. Jésus sur la croix, voyant ses bourreaux en train de le crucifier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié, il a intercédé en leur faveur. Qu'est-ce qu'il a dit comme prière? Voilà. Père, même plus précis, déjà entendu, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ce n'était pas seulement pour les souverains sacrificateurs, pour les chefs religieux, pour les autorités romaines, mais aussi moi, aussi, vous aussi. Cette prière, nous faisons l'objet. Et aujourd'hui, nous allons continuer et je vous invite maintenant à regarder aujourd'hui la deuxième parole qu'il a prononcée sur la croix. Mais lisons les circonstances de sa crucifixion pour nous rappeler comme si nous étions là. Luc 23, à partir du verset 32 à 33, et après on va sauter du verset 39 à 44. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Luc 23, verset 32. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé crâne, ils le crucifièrent là. On va y revenir. Ils le crucifièrent là. Ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Verset 40, mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation? » Verset 41, « Pour nous c'est justice. On a semé, on récolte. » Galates 6, 7. Car nous recevons son compte mérité, nos crimes. Vous voyez la récolte. Mais celui-ci, en parlant de Jésus, n'a rien fait de mal. Et il s'adresse à Jésus et il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Verset 43, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il était déjà environ la sixième heure, ça veut dire midi. Il était crucifié à 9h, on est à midi. Et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure, de midi à 15h de l'après-midi. Nous allons regarder dans ce récit, ce fait historique, aujourd'hui la deuxième parole de Jésus, et voir dans cette circonstance magnifiée ou augmentée pour que nos yeux voient sa justice magnifiée à sa crucifixion face à cette, avec cette deuxième parole. La justice de Jésus-Christ magnifiée à travers cette deuxième parole. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. D'abord, il est écrit au verset 33 que nous venons de lire, lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé crâne, ils le crucifièrent là. Ils le crucifièrent là. Ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Ils le crucifièrent là, c'est-à-dire Jésus a été amené pour être crucifié. Que signifie la croix? Ça nous amène à considérer que la croix signifie, en général, deux choses. D'abord, pour l'homme, que signifie la croix? Pour les juifs, c'est la malédiction. Deutéronome 21, verset 23 dit « Celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. » Voyons Jésus. Tout de suite, les juifs connaissant les Écritures, il est maudit. Ça, c'est la signification de la croix pour les juifs. Mais pour les Romains, c'est le supplice la plus ignominieuse et la plus cruelle. Donc, du point de vue humain, on peut dire qu'à la croix se rencontrent la malédiction et la haine du cœur de l'homme envers Jésus. À la croix, du point de vue humain, se rencontrent la malédiction et la haine du cœur de l'homme envers Jésus. Et ils se unissent pour dire qu'il soit crucifié. C'est ce qui est écrit dans Matthieu 27, verset 22 et 23, et Luc 24, verset 7. Mais, ça c'est la signification de la croix pour l'être humain. Mais, pour Dieu, la croix signifie autre chose. Du côté de Dieu, la croix signifie autre chose. Sur la croix se concentre la malédiction de Dieu à cause de sa loi violée. Alors, la malédiction qui tombe sur nous a été détourné et maintenant supporté par quelqu'un qui n'est pas coupable, un innocent. C'est le substitut divin. Pourquoi? Parce que Jésus a pris la malédiction sur lui à notre place. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai ça, que Jésus est le substitut divin qui a pris la malédiction de la loi qui est tombée sur nous parce que nous ne pouvons pas l'accomplir pour pouvoir nous présenter devant un Dieu trois fois saint? Oui, Paul revient et dit magistralement en Galates 3, verset 17, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. » Il s'adresse à qui? Dans l'Épître aux Galates, il s'adresse aux chrétiens de Galate. Ces chrétiens sont composés de des chrétiens d'origine juive, des chrétiens d'origine païenne non juive. Il dit, nous, Christ, nous, les juifs, les non juifs, nous a rachetés de la malédiction de la loi. Parce que la loi, c'est le standard que Dieu a donné, reflétant ses perfections, ses exigences, sa sainteté, sa justice. Et si vous venez, vous prétendez de venir devant la présence de Dieu avec la loi, impossible. Parce que vous, si vous faillissiez, un seul point de la loi, vous avez tout faux. Impossible. Et Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous,
à notre place, car il est écrit « Maudit est quiconque pendu au bois ». Ça, c'est première chose, la signification de la croix aux yeux de Dieu.
Mais la croix aussi manifeste toute la colère de Dieu, non pas contre les pécheurs que je suis, que vous êtes, mais contre le péché. Dieu, s'il veut être juste, si à nos yeux il doit être juste, il ne peut pas fermer les yeux et gommer et dire le péché, bien mon petit lala, c'est effacé, super, je t'accueille.
Mais non, ça se passe pas comme ça.
Quand quelqu'un subit un tort, il réclame justice. On paye les conséquences de ce qu'il a subi. Il veut que l'autre qui a commis l'acte paye, n'est-ce pas? Dans ce cas-là, il peut être apaisé et dire oui, on m'a rendu justice. Et c'est pareil, Dieu ne peut pas fermer les yeux sur les péchés et dire tout va bien. Non. Dieu, saint par sa nature, exige que le péché soit réglé. Et donc, la colère de Dieu contre le péché doit être réglée. Et la croix, c'est exactement le lieu où Dieu a réglé une fois pour toutes le problème du péché. La colère qui m'est destinée a été détournée et tombée sur quelqu'un qui n'a rien fait, qui n'a pas commis de péché. Et ça aussi, c'est aux yeux de Dieu, la manifestation de sa colère contre le péché, c'est le sens divin de la croix. Mais la croix aussi, non seulement manifeste la colère de Dieu contre le péché, mais manifeste l'amour de Dieu pour les pécheurs, ceux qui viennent et qui croient en lui. Oui, Jésus est seul qui peut apaiser la colère divine, et c'est Jésus seul qui peut donner la paix au cœur de l'homme qui vient à lui céder ses armes de rébellion et le recevoir comme son Seigneur et Sauveur. Oui, c'est la manifestation de l'amour de Dieu aussi, la croix, parce que le verset que nous connaissons tous par cœur, on va y revenir plus tard, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il l'a amené là pour être crucifié. Revenons à notre texte dans Luc 23, versets 33 à 44. Le texte que nous venons de lire nous rapporte que Jésus était entouré de deux malfaiteurs. Gentil, mais littéralement, ce sont des brigands. Et vous savez, quand on compare les textes bibliques des quatre évangélistes, Luc seul, Matthieu seul, pardon, qui a mentionné que les brigands, les deux, crucifié avec Jésus, l'insulté de la même manière. Nous ne lisons pas ça ici en Luc. Luc n'a pas, dirigé par l'Esprit, n'a pas jugé de donner ces petits détails. Matthieu le seul. Regardez dans Matthieu 27, 44, les brigands crucifiés avec lui, l'insulté de la même manière, les deux. Ça veut dire que au début, les deux malfaiteurs condamnés avec Jésus l'insultaient exactement de la même façon. Alors, comment ça se fait que l'autre brigand a fait volte-face et dit, il a cessé d'insulter, reconnaît sa culpabilité et demande à Jésus de l'accueillir quand il sera dans son règne? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'était passé pendant ces heures-là? Rappelons-nous la dernière fois que
que tout le monde, même les soldats romains, les deux brigands, tout ce qui est autour, entendaient Jésus prier. C'était la première parole. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Je me suis dit, ils n'étaient pas sourds. Les deux ont entendu cela, ont vu cela. Et cela a dû toucher la conscience de ce brigand. Et son cœur a été bouleversé. Deuxième chose, verset 41 que nous venons de lire. Lui, en étant accroché là, réfléchissait, mais il se dit, il s'adresse à l'autre brigand. Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là, nous, on a semé et on a récolté. Et là, c'est ça. Mais lui, il n'a pas semé, mais il récoltait quelque chose qu'il ne mérite pas. Ça veut dire quoi? Il est traité de manière injuste. Vous voyez ce témoignage de ce brigand, c'est l'avant-dernier témoignage qui innocente Jésus. Rappelez-vous des tribunaux, des procès dans les tribunaux juifs. Il y en avait trois. Les procès dans les tribunaux romains. Rappelez-vous, Pilate disait aux Juifs, les chefs religieux, je ne vois rien qu'on puisse condamner cet homme. Il est innocent. Hérode, pareil. Je ne vois en quoi on peut l'accuser. Non, il est innocent. Maintenant, le brigand dit la même chose. Et vous savez, le dernier témoin qui prouve encore aussi l'innocence de Jésus, c'est ce centenier, celui qui est un officier militaire qui commande plusieurs centaines de soldats. Donc il est bien placé. Il était là, au pied de la croix. Il a vu les ténèbres envelopper toute la terre. Il a vu le soleil s'obscurcir. Il a vu le rideau du temple déchiré au milieu du haut jusqu'en bas. Il dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et il disait, Luc 23, 47, certainement cet homme était juste. Il confirme. On était tant témoin que cet homme ne méritait pas d'être là, crucifié. C'est ce que dit le brigand. Vous savez, Pierre, plus tard, écrit dans l'épître, hein, son épître, hein, première épître de Pierre, chapitre 3, verset 18, il doit se souvenir de cette nuit amère pour lui. Et maintenant, plus tard, il s'adresse à des chrétiens dispersés, persécutés, et il dit ceci, Christ aussi, parce que eux, les destinataires de l'épître, souffrent énormément. Il dit aussi, pour dire vous n'êtes pas seul, il y en a un qui a vécu déjà avant vous. Il dit Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Ah, il est innocent. Il est juste. Mais la raison c'est pour les péchés. De qui? De Jésus? Non, la parole dit, il n'a pas de péché en lui. Il n'a point commis de péché. Mais pour les péchés de qui? Lui, Jésus juste, pour des injustes. C'est-à-dire, lui juste, à la place des injustes. Dans quel but? Afin de nous amener à Dieu. D'accord. Pierre explique ce qui s'était passé sur la croix. Maintenant, on comprend, nous, qu'il a aussi souffert pour les péchés des autres, de nous, de ses bourreaux. lui juste, c'est ce qu'ont confirmé Pilate, Hérode, c'est ce qu'ont confirmé ce brigand, c'est ce qu'ont confirmé le centenier, il est juste. Mais il était crucifié là d'une manière injuste pour nous les injustes. Le brigand dit, pour nous c'est justice, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Pierre nous dit, il a souffert une fois pour les péchés, lui juste, à la place des injustes. Dans quel but? Afin de nous amener à Dieu. Vous avez le mot ici, amener à Dieu. Ça implique quoi? Ça veut dire que je ne peux pas, de mon propre initiative, venir à Dieu. Ça, c'est la première implication de ce qui est écrit là. Ça veut dire que par moi-même, par ma propre justice, je ne peux pas me présenter devant la présence d'un Dieu trois fois saint. Il faut être amené à Dieu. Par qui? Par le substitut. Lui, pour des injustes. À la place, il faut lire, à la place des injustes. Ça, c'est ce qu'on appelle dans le... L'enseignement de la Bible, c'est ce qu'on appelle le substitut. Substitut veut dire quelqu'un qui prend la place d'un autre. Ou quelqu'un qui se met à la place d'un autre. C'est très important de retenir ça ce matin. Je ne peux pas venir par ma propre justice, parce que la parole de Dieu dit, ma propre justice, c'est comme un vêtement souillé. Devant Dieu. Nul n'est juste, dit la parole de Dieu. Paul le dit en Romains. Personne ne cherche Dieu, il ne peut pas venir par lui-même. Mais il faut être amené à Dieu par le biais d'un substitut. Paul dit en 1 Corinthiens 1, verset 30, c'est par lui, on parle de Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous, à notre place, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Prenons juste, c'est par lui, Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait à notre place, justice, c'est la substitution. Attention, quand on parle de la substitution, ça ne veut pas dire que sur la croix, Jésus est devenu pécheur à notre place. Surtout pas. Jésus n'est pas devenu pécheur à notre place. Car il n'y a point en lui de péché, nous dit l'apôtre Jean. Lui qui n'a point commis de péché, dit l'apôtre Pierre, et le brigand aussi le confirme. Donc ça ne veut pas dire que Jésus est devenu pécheur à notre place quand il est crucifié. Surtout pas. Mais il faut bien comprendre dans la substitution, Jésus a pris à ma place ce que je méritais à cause de mes péchés. Il a pris nos péchés sur lui. À ma place, il a pris nos péchés sur lui. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Maudit sur la croix. Vous comprenez? Quand on parle de substitution, Jésus n'est pas devenu pécheur, mais il a porté nos péchés, c'est-à-dire à notre place, sur lui en son corps quand il est crucifié. La substitution veut dire aussi, il a pris sur lui, à ma place, la peine et la condamnation que méritaient nos péchés. Ésaïe 53, verset 5, il a été blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, le substitut. Et vous savez, la doctrine de la substitution est enseignée partout dans la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Juste un verset. Vous pouvez noter un Hébreux 7, versets 26 et 27. À lire à la maison. Mais juste pour vous donner un verset dans Hébreux 9, 28. Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Vous voyez? Christ s'est offert volontairement une seule fois pour porter les péchés, pas lui parce qu'il n'en a pas, mais péchés de plusieurs. Paul nous dit tout à l'heure, Christ a été fait pour nous justice. Fait justice à notre place. 1 Corinthiens 1:30. La question, comment est-ce que Jésus-Christ a été fait pour nous justice? Comment ça se passait? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que Jésus-Christ a été fait pour nous justice? Et c'est la clé. Pour nous, c'est justice, dit le brigand, mais lui, non. On met le contraste entre la justice de Jésus-Christ magnifiée devant l'injustice de ces brigands et de tout ce qui était ces bourreaux. Ça, c'est ce que nous voulons voir. Comment ça, c'est possible? En 2 Corinthiens 5, 21, c'est à retenir, on va apprendre par cœur ce verset. Celui qui n'a point connu le péché. On parle de qui? Jésus. Il l'a fait devenir. Il, c'est qui? Dieu. Elle apostrophe, c'est qui? Jésus. Fait devenir péché. C'est pas écrit devenir pécheur. Attention. Fait devenir péché pour nous. Il faut lire à ma place, à votre place. Quel but? Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ici aussi, on a vu la substitution. Là, c'est quelque chose d'important pour la foi chrétienne. Comment est-ce que Dieu a fait en sorte pour que nous devenions justice en Christ? C'est par ce qu'on appelle l'imputation. C'est le verbe imputer. Imputer veut dire mettre quelque chose sur le compte de quelqu'un d'autre. Vous retenez bien, imputer veut dire mettre quelque chose sur le compte d'un autre. Et c'est pas Lala qui a inventé le verbe imputer, c'est dans la Bible. Ne serait-ce que le Romains chapitre 4, vous allez le voir 11 fois, si je ne me trompe pas, oui, 11 fois est cité le verbe imputer dans le Épître aux Romains chapitre 4. Et dans tout le Nouveau Testament, 41 fois le verbe imputer. Très important. Je ne fais pas ça souvent, mais il faut comprendre ce que ça veut dire l'imputation. Ça, c'est vous. Ça, c'est moi. Est-ce qu'on voit au fond, Mathieu, tu le vois? Ici, raisonnons maintenant notre vie comme un compte. Parce qu'on a dit, imputer, c'est mettre sur le compte de quelqu'un d'autre. Donc ici, mon compte, c'est ma vie. Pourquoi c'est un compte? Parce que la Bible dit, un jour, je rendrai compte à Dieu de ma vie. Donc, ma vie, c'est comme un compte bancaire. Et vous voyez bien, ici, ma vie commence quelque part, ma naissance. Et ma vie va se terminer où? La mort. Un jour, ça arrivera. Aujourd'hui, mon compte, ma vie, imaginons, je suis sans Jésus-Christ. Eh bien, depuis votre naissance, imaginons qu'on est aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voyez là? Sale. souillés. À cause de quoi? Des péchés. Il y a dedans les calomnies. Il y a dedans la violence, peut-être pas avec l'acte. Il y a dedans la convoitise. Il y a dedans beaucoup de péchés. Le vol, l'adultère, tout ce que vous voulez, la tricherie. Et voilà ma vie sans Jésus-Christ aujourd'hui. Il va continuer. Donc ça c'est ma vie, mon compte. J'ai à rendre compte le jour de ma mort devant la présence. Mettre sur le compte de quelqu'un d'autre. Selon la Bible, ça c'est le compte de qui? Jésus. Est-ce que vous voyez une date de naissance? Il y a une naissance là? Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et qu'est-ce que vous voyez sur son compte? Justice. Tout est blanc. Nickel. Il n'y a rien à lui reprocher. Ça, c'est le compte de Jésus-Christ. Jésus est Dieu. Il n'a pas commencé, il n'a pas de fin. Il est Dieu. Il est toujours, depuis toute l'éternité. Le moment de ma conversion, c'est comme ce brigand. À l'heure où Dieu a touché son cœur, quelque chose s'est passé. Et c'est ce que nous regardons maintenant. La vie de ce brigand, c'est comme celui-là, n'est-ce pas? C'est ma vie, comme le vôtre aussi. Sale, avec tous les péchés possibles. Mais au jour de ma conversion, où vous donnez votre vie au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a imputation, on a mis sur votre compte, regardez ce qu'il est. On a mis sur votre compte la justice de Jésus-Christ à ceux qui croient. Regardez. Et qu'est-ce que vous remarquez? Ça, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous acceptez le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai marqué ici le petit trait pour nous rappeler aujourd'hui. Qu'est-ce que devient votre vie aux yeux du juge de toute la terre? Pour ceux qui croient, qu'est-ce que vous voyez? Jésus-Christ, tout blanc, juste, rien à reprocher. Et évidemment, sa justice est imputée, mise sur votre compte. Est-ce que Dieu voit ça? Non, non. Il voit ça maintenant si vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous avez remarqué, j'ai mis un petit trait. La justice de Jésus-Christ n'a pas juste annulé tout ce qui était tout noir, mais il a la justice de Jésus-Christ est mise sur vos comptes. Cette justice n'était pas là dans votre compte avant. Mais regardez, tout, même pour le futur. Magnifique. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Si, imaginons que le sacrifice de Jésus-Christ n'a pu faire que là, ça veut dire quoi? Vos péchés, ils étaient annulés. Parce que la justice a comblé pour que tout soit réglé, le compte est équilibré. Mais Dieu a fait plus que cela. Que vous innocentez, Dieu a fait plus que cela. Il vous a déclaré juste. Ça, c'est aujourd'hui. Quand vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, voyez, pour tout le reste de votre vie, vous êtes juste. La justice de Jésus est mise sur votre compte. Magnifique. C'est sur le plan, je dis bien l'imputation, c'est sur le plan judiciaire. Un jour, je dois rendre compte de ma vie devant le juge de toute la terre. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment où vous décidez de venir à Christ? Qu'est-ce qui se trouve, qu'est-ce qui se passe dans le compte de Jésus? Tout ce qui était dans votre compte, il est mis maintenant sur son compte. Ça, c'est ce qu'on appelle l'imputation des péchés de la race humaine, vos péchés, mes péchés, maintenant mis sur le compte de Jésus. Pour que, aujourd'hui, Dieu vous voit, si vous donnez votre vie à Christ, ici. Est-ce que c'est clair ça? C'est important de comprendre et de serrer ça dans son cœur. Ça, c'est ce que Dieu fait pour celui qui vient à lui et qui croit en son Fils comme être le Seigneur et son Sauveur. Donc, il y a une double imputation dans ce verset que nous venons de lire. Le mot-clé, c'est le verbe « devenir ». 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Ça, c'est le premier aspect de l'imputation, l'imputation des péchés de la race humaine à Christ, ce que je viens de vous montrer. Cela signifie que la peine juridique, c'est quoi? L'enfer que je mérite. L'enfer, c'est cette séparation éternelle d'avec Dieu, de tout mon être, corps, âme et esprit. Que je mérite à cause de mes péchés, il est tombé sur le Christ. Comme j'ai dit, ça ne veut pas dire que Jésus est devenu pécheur à la place de l'humanité. Non, la Bible n'enseigne pas ça. Ça, c'est le premier aspect de l'imputation. Deuxième aspect, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure maintenant. L'imputation de la justice de Dieu, de Christ, aux croyants. Et c'est magnifique. Ça, sur le plan judiciaire, quand le jour viendra, vous mourrez. Dieu demande quoi? Vous avez entendu. Qu'est-ce que vous avez fait de la justice de mon Fils? Sur l'imputation, avez-vous accepté l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix? C'est le seul que j'accepte pour que quelqu'un vienne dans ma prison. Vous ne pouvez pas venir à dire, voilà ma propre justice. En dehors, je ne vous connais pas. Ah! Vous avez la justice de Jésus-Christ. Venez, vous êtes en moi. Jésus s'est donné pour vous. Vous êtes de la famille, adoptée de Dieu. Parce que racheté par Jésus. Venez, entrez. C'est ça qui fera la différence entre celui qui, comme l'autre brigand, n'a rien à faire, continue à insulter, si je peux dire ainsi, c'est pas écrit dans le texte, mais le deuxième dit terminé. Nous méritons ce que nous avons semé en récolte, mais lui, non. Terminons l'histoire avec ce brigand. Maintenant, son destin, c'est quelque chose qu'il ne méritait pas. Et je dirais, moi aussi et vous, vous ne le méritez pas d'être en Jésus-Christ. Oui, maintenant, ce brigand, le jour où il a accepté le Seigneur, la justice de Christ, il est couvert par la justice de Jésus-Christ. J'aime beaucoup ce que dit Ésaïe. Notez bien, Ésaïe 61, verset 10. Il utilise une métaphore de vêtements. Et dans le Nouveau Testament, Paul utilise beaucoup aussi les métaphores de vêtements. Quand devais-tu et vêtements, quand se rhabiller. C'est des métaphores, des images. Et Ésaïe nous dit ceci. Il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert de la robe de la justice. De justice de qui? Parce que pas voir. De la justice de quelqu'un d'autre, le juge. Il m'a couvert. Et Dieu me voit à travers la justice de Christ. Il me voit aussi juste, juste que Jésus-Christ est le juste. Incroyable. Et ça, c'est une réalité. Bon, Dieu, c'est la parole qui vous dit. Oui, ce malfaiteur a une requête. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Si vous êtes à cette époque, vous vivez à cette époque. Et vous êtes, vous entendez parler des Écritures. Il y a ce qu'on appelle l'attente très forte, l'attente messianique. Et quand il dit souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, il pense au retour glorieux du Messie roi sur la terre qui viendra établir son règne. On parle du royaume messianique. Mais Jésus n'est pas venu pour la première fois pour être le Messie roi. Il est venu pour être le Messie souffrant, portant nos péchés en son corps sur le bois. Quelle est la réponse de Jésus face à cette requête? Je te le dis, les yeux dans les yeux, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Un scoop? Est-ce que c'est un scoop? Il ment, Jésus? D'abord, Jésus ne dédaigne pas la requête de ce malfaiteur en cette heure suprême de son sacrifice. C'est pas un scoop. Jésus disait déjà auparavant, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Et celui-là aussi est perdu, ce brigand. Il est venu chercher et sauver ce qui est perdu. C'est pas un scoop parce que Jésus, par rapport aux deux brigands, il est mort avant eux. Et si vous lisez Luc 23, un peu plus loin, verset 46, nous lisons, Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains, et en disant ces paroles, je l'expire. » Il était mort, il est déjà dans la présence de Dieu avant ses brigands. C'est pas un scoop. Il y a quelque chose à retenir. Tu seras avec moi au paradis. On parle beaucoup de paradis. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est? Le paradis, le mot, c'est d'origine perse. Tu le sais. Hein? Et ce mot s'applique à un jardin. Et j'ai essayé de regarder les références, c'est vrai, il y a beaucoup dans l'histoire de l'Ancien Testament, les jardins jouent un rôle important dans la vie. Okay. C'est pas le propos. Mais tous les juifs acceptent pour désigner, vous savez, le jardin d'Éden en Genèse 2, comme le paradis. Évidemment, avant la chute. N'est-ce pas? Mais, dans le Nouveau Testament, le mot paradis, c'est plus qu'un jardin. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 2 à 4. Regardez chez vous. Paul parle du paradis. Et il n'utilise pas ce terme, hein, mais il utilise le mot troisième ciel. Quand Paul a eu une vision en contact direct avec Dieu, il dit dans 2 Corinthiens 12, versets 2 à 4, hein, qu'il était au troisième ciel. Mais c'est quoi le troisième ciel? En cosmologie, on peut voir trois ciels. Il y a d'abord le premier ciel, c'est ce qui est au-dessus de notre tête. Là où les oiseaux volent, là où les avions volent, ça c'est le premier ciel. Plus on monte, loin, s'il y a montré toutes ces galaxies, il y a le deuxième ciel, c'est là où se trouvent les étoiles. Une galaxie, tout ce que l'univers, infiniment grand. Vous tenez bien le premier ciel, c'est l'atmosphère qui est au-dessus de notre tête. Où les oiseaux volent, où les avions volent, et là. Et après le deuxième ciel, c'est plus loin. Là, c'est l'espace où se trouvent les étoiles. Et le troisième ciel, c'est là où se trouve la demeure de Dieu. Et Paul dit, dans 2 Corinthiens 12, verset 2 et 4, il a été en vision au troisième ciel, le paradis. Donc le paradis, c'est plus qu'un jardin, c'est la demeure de Dieu même. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le destin immérité. Jésus, quand il est mort avant les brigands, je remets mon esprit entre tes mains et il expire. Son corps est resté 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, mais son esprit, à l'instant même, il a remis entre les mains de son Père. C'est la voie à partir de la résurrection de Jésus-Christ. Si quelqu'un meurt en Christ, son esprit va directement dans la présence de Dieu. C'est pas la qui invente ça comme ça. La Bible l'enseigne. Martyr d'Étienne. Vous allez regarder dans Actes chapitre 7, hein, verset 59 à 60. Il était lapidé. Et il était lapidé, Étienne, et qui priait et disait, verset 59, Actes 7, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Reçois mon esprit. » Ah, Jésus est déjà au ciel. « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Verset 60, puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Le mort pour un chrétien, ce n'est pas la fin, c'est un sommeil. Un sommeil, il s'endormit. Et vous savez, c'est l'enseignement de toute la Bible. L'apôtre Paul, là, ce que je veux surtout souligner dans le verset que je donne maintenant, en Philippiens chapitre 1, verset 23 à 25, notez-le chez vous. Paul a été tiraillé entre deux choses qui sont légitimes. Il dit en Philippiens 1, verset 23, « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller. » Il parle, sans le dire que j'ai envie de mourir et partir. « De m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui est beaucoup le meilleur. » Verset 24, « Mais à cause de vous, les Philippiens, il est plus que nécessaire que je demeure dans la chair, dans cette enveloppe, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. » Juste ce que je veux souligner ici, désir de m'en aller et d'être avec Christ. Je ne lis pas ici que Paul a échappé, a fui comme un lâche des souffrances, des persécutions qu'il a subies et dit « J'en ai assez, Seigneur, enlève-moi, je suis mieux auprès de toi. » Il ne s'est pas évadé, des quotidiens, des luttes, des souffrances, des épreuves pour que la mort soit un échappatoire. Que, vous savez, on peut penser à ça, oh, j'en ai marre, Seigneur, enlève-moi, ça sera mieux auprès de toi, parce que je n'en peux plus. Non, Paul ne vous a pas laissé un exemple comme ça. On n'échappe pas au lot de tous les l'humanité à cause du péché, que la mort soit une échappatoire pour échapper. Non. Paul avait une motivation plus importante que cela. J'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ. Dans la Bible, il y avait des exemples, je vous en ai parlé, de Élie. Découragé. À un moment, il dit, j'en peux plus, enlève ma vie quand Jézabel est venue, lui dit, ta tête, je l'ai maintenant. Je vais faire tout pour que tu sois mort. Il en a parlé. Et nous avons Élie demander la mort pour échapper à cette souffrance. Rappelez-vous la femme de Job, maudit Dieu et meurt. La mort échappatoire pour échapper aux difficultés de la vie. Non, mes amis, c'est pas comme ça. Dieu, l'apôtre Paul nous enseigne que lui-même, même s'il a l'ouverture d'être devant Dieu, est là, je suis tiraillé. Il était dans une tension. Entre être avec Christ. Vous voyez la différence? Il ne veut pas échapper à la mort, échapper aux souffrances, il souhaite la mort pour en échapper, mais il désire être avec Christ. Quoi? Être avec Christ? Mais je suis déjà avec Christ. Le jour où vous êtes converti, vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous êtes avec lui. C'est l'enseignement de la Bible. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Être avec Christ, c'est dans cette intimité, il n'y a plus l'environnement du péché, mais dans sa présence. Profiter pleinement de petits aperçus de ce que nous vivons chaque jour déjà. Je lis la parole de Dieu, vous lisez la parole de Dieu, vous priez Dieu, mais aussitôt vous priez, pouf, les péchés reviennent, les mauvaises pensées reviennent, les luttes reviennent, tout revient. Non, Paul désire mieux que ça, de ne plus être dans cet environnement souillé, mais être dans la présence du Seigneur parfaite. Le péché n'a plus sa place. Et être en intimité toute l'éternité avec le Seigneur. Ça, c'est son désir. Être avec Christ le jour où vous êtes converti, oui, vous êtes en Christ, vous êtes avec Christ. Mais, vous voyez les luttes. Vous voyez les luttes, les bons combats de la foi. Eh oui. Mais au ciel, il n'y aura plus ça. On est dans la présence de Dieu. On est dans la perfection. Il n'y a plus de péché. Magnifique. Et ça, c'est son désir. Mais vous savez, il avait des luttes. Pourquoi il dit, c'est bien Philippiens que je reste avec vous, parce que c'est pour que, et vous aider à accompagner dans le cheminement avec les Seigneurs, à ce que vous grandissiez dans la foi. Lisez Philippiens chapitre 1, verset 23 à 25. Pour cette raison, ouais, je reste avec vous. Cette enveloppe. Mais le meilleur, c'est d'être là. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. C'est pour celui ou celle qui donne sa vie au Seigneur, qui accepte que Jésus soit son substitut, qui accepte l'imputation que nous venons d'en parler. Et ça uniquement par Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Vous savez, Jésus est descendu du ciel pour accomplir l'œuvre de Dieu pour le salut dans le but de nous amener à Dieu. Il a souffert une fois pour les péchés, lui juste à la place des injustes afin de nous amener à Dieu. Nous sommes témoins. Imaginons. Le jour de la crucifixion. Jésus au milieu, deux brigands. Une personne située à droite de Jésus, l'autre à gauche de Jésus. Il y en a un qui a choisi le ciel. Oh, moi, je ne veux pas le ciel, mais je veux le ciel avec Dieu. Aujourd'hui, tu seras avec moi. Je veux la présence du Seigneur. C'est cela que je cherche. C'est ce que Paul cherche. Oui, vous aussi aujourd'hui, devant la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, êtes-vous du côté de celui qui méprise, injurie, n'a rien à faire d'une indifférence complète au message de la croix? Où êtes-vous et vous prenez la décision ce matin d'être comme l'autre brigand qui dit « Je mérite ce que je récolte. » C'est justice. Mais Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Le choix est devant nous entre la vie et la mort. Et ça s'adresse à toute personne, que ce soit jeune, adulte ou senior. Si vous n'êtes pas encore en Jésus-Christ. Regardez la promesse de Jésus aux brigands, et ça aussi c'est pour vous. Je te le dis en vérité. Je te le dis en vérité, les yeux dans les yeux. C'est vrai, c'est une certitude. Ce n'est pas un scoop. Le salut est personnel. Je te le dis. Personnel. C'est une certitude. En vérité, c'est garanti par le Seigneur lui-même. Si vous venez à lui, aujourd'hui, c'est la même parole que le Seigneur adresse à vous. Aujourd'hui, c'est immédiat. Ce n'est pas après votre mort, c'est aujourd'hui. Le salut est immédiat, mais sans vos mérites, sans vos œuvres. Aujourd'hui, le jour du salut. Aujourd'hui, le temps de Dieu, le temps convenable. Venez à lui. Acceptez-le aujourd'hui.
Tu seras avec moi. Par le salut, vous entrez en communion personnelle avec Jésus. Tu seras avec le petit, avec moi. Ça veut dire être dans la présence de celui qui s'est laissé clouer sous la croix pour moi, mon substitut. Tu seras avec moi. Dans le paradis, dans la présence au ciel avec Jésus. La parole de Dieu présente devant vous le chemin de la vie, le chemin de la mort. Je vous encourage à choisir la vie. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous a donné un sursis. Vous êtes jeune, vous êtes à un certain âge, adulte et senior. Vous êtes là aujourd'hui pour simplement un sursis. Ne laisse pas passer la parole de Dieu. Cherchez dans votre cœur. Qu'est-ce qui m'empêche de venir à Jésus? Vos armes de rébellion, jetez-le. Venez à lui. Il a tout fait pour vous amener à Dieu. Il a tout fait pour que la colère de Dieu qui demeure sur vous, il l'a pris à votre place. Si vous venez aujourd'hui, la parole de Dieu dit: vous avez la vie éternelle. Vous n'aurez pas la vie éternelle dans le futur. Vous avez la vie éternelle. La vie éternelle, c'est cette vie de communion, d'intimité, chaque jour avec Dieu. Dès ici, évidemment, dans une atmosphère, il y a toujours le péché. En moi et autour. La Bible parle que nous avons trois ennemis, le monde, la chair et le diable. Mais Jésus garantit qu'après notre mort, nous serons dans la présence de Dieu au ciel. Amen.